C'est la rentrée, un podcast en 4 épisodes pour explorer les facettes de la vie étudiante à Tours en 2025. Radio Campus Tours était présente sur les événements de la rentrée universitaire le 25 septembre 2025. Un premier événement se tenait sur l'esplanade des Tanneurs, organisé par le service de la vie étudiante et le service culturel de l'Université de Tours. Un second événement en soirée, au Beaumont, campus en fête, offert aux étudiants par le CRUZ. Épisode 1, Nature. On vous emmène sur le village écolo aux Tanneurs, à la rencontre d'associations investies dans la protection de l'environnement. Ensuite, un échange avec Pascal Vaudin, enseignant-chercheur, autour du projet SCAPE, et Camille Ponchamp, de l'association étudiante Apnée. Et, du côté des Beaumont, on rencontre les étudiants de l'Agricampus à Fondette et on parle customisation.
Donc bonjour, on est au stand Active de l'association Active. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter vous et ensuite présenter le stand et l'association ?
Mondane Blin, je suis bénévole, vice-présidente chargée de la communication et des partenariats. Alors on est là pour présenter aux étudiants notre association qui a plus de 25 ans.
Et est-ce que vous pouvez décrire en trois mots ce que vous faites dans l'association ?
Alors, nous, on est une friperie solidaire, c'est-à-dire que nous vendons des vêtements à tout petit prix, des vêtements qu'on nous donne. Pour vous donner une ordre d'idée, en ce moment, on reçoit 1 tonne de vêtements par jour. Ils sont donnés par des magasins ou par des particuliers, qu'on met en magasin en vente à des tout petits prix. Vous voyez, 2 euros, 3 euros, 4 euros, vraiment des tout petits prix, mais état neuf. On est très exigeant là-dessus parce qu'on veut sensibiliser à la seconde main. Voilà, on vend des vêtements, de la vaisselle, des jouets et des livres. Okay. La vaisselle, c'est important, les vêtements, c'est important pour les étudiants, c'est pour ça qu'on est là. Okay. Voilà.
Et où est-ce que vous êtes situé dans Tours ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver ?
Alors, on a 2 boutiques à Tours, une rue Saint-François, c'est à côté du Botanique, à côté du Stade Tonnelet, à côté de Bretonneau, je dis comme ça, et l'autre, c'est rue Édouard Vaillant.
Ok, très bien. Et est-ce que vous avez un autre mot à dire en plus ?
Oui, en fait, l'argent qu'on récolte dans ces ventes, on ne se les met pas dans les poches, c'est pour salarier des femmes qui sont en difficulté. Et en fait, grâce à l'argent récolté par ces ventes, on les salarie chez nous pendant 1 an et on leur cherche du travail, on leur trouve du travail. Quand elles sortent d'Active, elles ont un travail. Donc quand vous venez chez vous, vous faites plaisir, ça ne vous coûte pas cher, vous sauvez la planète et vous aidez des femmes à trouver du travail.
D'accord, très bien. Est-ce qu'un dernier mot à dire, un mot de la fin, un message à faire véhiculer au nom de l'association ?
La seconde main, c'est vraiment l'avenir, quoi.
Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Est-ce qu'on peut prendre un numéro de téléphone pour vous envoyer ?
Alors, on est devant le stand.
Sérigraphie avec Bastien Martinez du collectif Light Friday.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites ?
Ouais, pas de souci. Alors, ça fait quelques années maintenant qu'on intervient avec l'Université François Rabelais pour faire des barres à sérigraphie. Donc, le but, c'est de proposer une initiation à la pratique dans le but de montrer que c'est relativement facile de revaloriser un vêtement, justement. Donc, c'est très souvent qu'ils nous mettent juste à côté d'Active. Comme ça, les gens, ils font un petit combo, ils achètent une pièce. Un bon geste, sérigraphie, un autre bon geste. Et le but, c'est d'arriver avec un peu une pratique ludique du truc, parce qu'on ne se rend pas souvent compte comment les t-shirts sont imprimés. Et meilleur exemple, c'est les BDE, généralement, qui viennent dès le début de l'initiation parce qu'ils se rendent compte que c'est un support super facile pour eux. Tous les ans, ils ont des pulls, des t-shirts à faire. Et tous les ans, ils vont commander en Chine pour le faire. Donc bon, c'est un problème qu'ils essayent de résoudre justement avec la sérigraphie. Donc quand on arrive sur par exemple le festival de la rentrée, on essaye de prendre des designs qui sont assez cool. Donc il y a de la texture abstraite, il y a des motifs qui sont un petit peu parlants, en mode Actriact où on a une grue qui tient une planète en mode boule de démolition, des trucs comme ça. Mais on le fait aussi avec le passeport culturel étudiant, PCE, c'est ça, je connais bien mes cours. Donc il y a plein de manières de le mettre en place et selon les facs avec lesquelles on intervient, il y a toujours une manière un petit peu plus ludique de le faire. Si on va en fac de sciences, on présente vraiment le processus de manière scientifique. Et quand on vient au Tanneur, généralement, c'est un peu ouais, voilà, l'écrito BDE. Faites votre propre merch, les gars, c'est super facile. Donc voilà, dans les grandes lignes, un peu ce qu'on propose aujourd'hui.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part à Tours ?
Ouais, on a notre atelier au 127 rue Colbert. Donc du coup, là-dedans, on va faire tout ce qui concerne le textile de près ou de loin. On ne fait pas que de la sérigraphie ou de l'impression textile. On fait aussi de la conception textile. On fait de l'accompagnement artistique. Par exemple, les artistes qui ont envie de faire du merch ou leur scénographie, on peut les accompagner là-dessus. Et tout ça, ça se passe au 127 rue Colbert, à l'atelier Light Friday.
Très bien, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites sur votre stand ?
Sur le stand, bah là, on a plusieurs cadres. Bon, les gens, ils vont pas le voir, mais il y a plusieurs cadres avec pas mal de design, de visuels. Et le but, c'est que les gens, ils viennent soit avec un t-shirt, soit nous, on a des pièces ou des chutes de textile. Et voilà, ils ont juste besoin de prêter leurs bras 20 secondes, ils tirent la raclette, ça imprime une image sur leur textile. Et voilà, j'espère qu'ils ont eu un petit truc fun et sympa.
Merci. Un petit mot pour la fin ?
Ligit à fond, c'est l'idiom Light Friday, voilà.
Merci beaucoup.
Pas de soucis, merci à vous. C'était tout bon ?
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Pascal Vaudin, coordinateur de projet de la SCAPE.
Scape, oui.
Scape. Pouvez-vous nous présenter le projet Scape et ses objectifs principaux ?
Alors les objectifs du projet SCAPE, alors déjà c'est un projet qui est financé par la région Centre, qui est sur 3 ans, et l'objectif est de sensibiliser une cohorte d'étudiants, de 600 étudiants sur les 2 universités de Tours et Orléans, aux enjeux des perturbateurs endocriniens. Donc et c'est de leur présenter ce que sont les perturbateurs endocriniens, où on les trouve, quels impacts ils peuvent avoir sur leur santé, et leur présenter surtout des solutions pour diminuer l'exposition à ces molécules toxiques.
Pouvez-vous nous préciser ce qu'est un perturbateur endocrinien ?
Alors, un perturbateur endocrinien, généralement, c'est une molécule qu'on appelle anthropique, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, c'est une molécule chimique qui a des structures très très proches de nos hormones naturelles, à tel point que si ces molécules rentrent dans notre corps, elles peuvent remplacer nos hormones et perturber ainsi le signal de nos hormones, d'où le terme perturbateur endocrinien.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette idée ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet sur les perturbateurs endocriniens ?
Alors d'un point de vue enseignement et recherche, donc je suis impliqué dans cette thématique, hein, cette problématique des perturbateurs endocriniens. Et donc il y a quelques années, une association étudiante avait proposé ce genre d'événement sur une semaine aux étudiants de Tours, donc juste pour sensibiliser ces étudiants, donc une cohorte de 100 étudiants. Et j'ai voulu élargir un peu cette opération qui avait bien fonctionné, ça avait bien plu. Vraiment, le public avait été très concerné, intéressé. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu élargir à l'ensemble de la région, aux étudiants de l'ensemble de la région.
Très bien. Quel effet ces substances peuvent avoir sur la santé humaine ?
Alors, c'est très divers, hein. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas encore tous les effets, mais lorsqu'on utilise des modèles animaux ou quand on fait des études épidémiologiques, donc les effets sont bien identifiés. Alors, les premiers effets identifiés sont sur la fonction de reproduction, la qualité des gamètes, quelques malformations du système reproducteur, des impacts sur le développement du cerveau, sur la cognition, sur les maladies neurodégénératives, certains cancers hormonodépendants, y compris des cancers non hormonodépendants aussi, des allergies, des maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité.
Okay. Est-ce que vous pouvez nous préciser s'il y a au quotidien
des substances qui nous environnent et qui peuvent nous impacter.
Exactement.
Alors déjà, oui, il y a des... toute la famille des pesticides, donc ça c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans les médias, hein. Effectivement, certains de ces pesticides ont des effets perturbateurs endocriniens et ont de vrais impacts. Sinon, des molécules dont on entend moins parler mais qui ont des effets et auxquels on est constamment exposé, ce sont toutes les molécules qui font partie des plastiques, les plastifiants, les bisphénols, les phtalates, mais aussi les perfluorés, qu'on appelle aussi les PFAS, qui sont aussi qualifiés de polluants éternels parce qu'ils sont très très difficilement dégradables dans l'environnement et ils persistent dans l'environnement. Ce qui fait qu'on est constamment exposé, malheureusement.
Comment le projet SCAPE sensibilise les jeunes adultes ?
Alors, on va. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc là, on est en plein recrutement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. On a un compte Instagram qui s'appelle Tour SCAPE, sur lequel on peut candidater. Tous les étudiants peuvent participer. Donc en mois de novembre, on va faire porter un bracelet à cette cohorte de 600 étudiants. Ces bracelets vont permettre de mesurer l'exposition à trois catégories de polluants, les bisphénols, les phtalates et quelques pesticides. Donc déjà, ça va déjà donner un chiffre sur à quoi on est exposé concrètement, parce que c'est une pollution invisible qui ne se voit pas. Donc là, on va pouvoir mettre un chiffre dessus. Ensuite, ces étudiants vont avoir une sensibilisation par des associations d'éducation à l'environnement, où ils vont expliquer ce que sont les perturbateurs endocriniens, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et dans un an, on va refaire porter un bracelet et on va aussi donner un questionnaire à cette cohorte pour savoir est-ce qu'ils ont changé certaines habitudes, est-ce qu'ils ont changé certains comportements pour permettre la réduction de l'exposition à ces polluants et voir si ça se concrétise avec la mesure suite au port du bracelet.
Très bien. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir face à l'ampleur des défis écologiques ?
Eh bien, moi, quand j'en parle, y compris quand Camille, qui est à côté de moi, le jeune public est très concerné par cette problématique des polluants environnementaux et de l'impact que ça peut avoir sur la santé. Donc c'est très encourageant. Donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à cette population étudiante, qui sont les futurs parents, voire même déjà des parents. On sait que ces polluants environnementaux, les impacts, la fenêtre de développement, c'est-à-dire lorsqu'on est in utero, on est très très sensible. Donc c'est effectivement, il faut sensibiliser et éduquer les parents, les futurs parents, pour que leur fœtus, leur futur bébé soit le plus protégé possible vis-à-vis de ces molécules.
D'accord. En parlant de futurs parents, j'ai lu dans une description de votre projet que leur effet se manifeste particulièrement pendant les 1000 premiers jours de vie et induisent de multiples pathologies ou malformations. Oui. Pourquoi les 1000 premiers jours de vie ?
Eh bien parce que les 1000 premiers jours, c'est quoi ? C'est la période qui commence à la fécondation.
D'accord.
De l'embryon jusqu'à aux 2 ans du bébé. Voilà, donc tout ça, ça fait ses 1000 premiers jours. Et pendant cette fenêtre, il y a tout un tas, l'organisme se développe. Et le développement est assez fragile et la moindre perturbation peut avoir des conséquences importantes qui peuvent avoir des répercussions visibles, mais une fois adulte. Donc c'est pour ça que cette période des 1000 premiers jours est très très importante et cruciale, parce que tout se met en marche, tous les circuits neuronaux se mettent en place. Et puis toutes les maturations de tous les organes aussi se fait pendant ces 1000 premiers jours.
D'accord. Si vous aviez un message à faire passer au grand public, lequel serait-il ?
Eh bien, il faut faire attention aux choix que l'on fait, à nos habitudes, parce que vraiment on a un vrai levier pour diminuer notre exposition à ces perturbateurs endocriniens. Surtout en ce qui concerne l'alimentation et tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Parce que 85 à 90% d'exposition à ces polluants, c'est la nourriture et ce qu'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et ça, on a un levier, on maîtrise normalement ce qu'on boit et ce qu'on mange. Et donc, il faut vraiment. Au début, c'est difficile, parce qu'il faut constamment se questionner. Mais à chaque fois que l'on achète quelque chose pour s'alimenter, faire attention. Est-ce que c'est le plus sain pour moi ? Donc éviter tout ce qui est, les plats ultra transformés, éviter le plastique dans sa cuisine en général, les ustensiles en plastique, les contenants en plastique, surtout si on les chauffe. Donc éviter absolument ça. Et puis revenir à de la vaisselle. Je vois ici à côté, il y a un stand où il y a le recycle de la vaisselle en seconde main. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est de la vaisselle en porcelaine, en verre, en céramique. Donc ça c'est parfait. Les vêtements, c'est pareil. Les friperies, ça participe à cette diminution d'exposition. Parce que moi, généralement, c'est des vêtements en coton. Donc c'est beaucoup plus ça.
Alors moi, je ne résiste pas à poser une question peut-être un peu sournoise à Pascal Vaudin. D'où je suis, je vois une magnifique citerne d'eau en plastique. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
C'est pas une bonne idée. Hein. Si on pouvait remplacer cette bonbonne en plastique par autre chose, ce serait bien. Surtout que là, elle est à température ambiante. Encore là, ça va, il ne fait pas trop de soleil. Mais si elle était au soleil en pleine chaleur, ça serait encore plus compliqué. Parce qu'un plastique chaud, vous allez avoir un transfert des plastifiants vers l'eau. Et plus c'est chaud, plus le transfert est efficace.
Ah, donc on comprend peut-être aussi que les éco-cups de festival en plastique...
Oui, c'est pas l'idéal.
Voilà.
C'est bien, c'est d'un point de vue... Alors, on n'utilise plus de ressources. C'est vrai que c'est vertueux parce qu'on n'utilise plus de ressources. Mais ça reste du plastique quand même. Et du plastique pas forcément de bonne qualité. On voit, ces gobelets en plastique que l'on voit dans les festivals, hein, ils sont, à force d'être utilisés, ils sont usés. Et donc on relargue du plastique, des microplastiques, des nanoplastiques, qu'on retrouve non seulement dans l'environnement, mais aussi dans notre corps.
Donc bonjour, on est au stand Métamorph. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites, votre association ?
Bonjour, moi je suis Marianne, je suis animatrice pour l'association Métamorph. Métamorph, c'est une association dont la mission est de réduire la pollution plastique, rien que ça. On fait partie d'un mouvement mondial qui s'appelle Precious Plastic. Donc nous, on est Precious Plastic en Touraine. Et nos modes d'action, ça va être la transmission de connaissances. Et là, notre message principal, ça va être que pour réduire la pollution plastique, la première action, c'est d'essayer de réduire l'usage de plastique tout court. Et en premier lieu, l'usage de plastique à usage unique. Et on fait de la sensibilisation en étant sur des événements comme le festival de la rentrée de l'université de Tours aujourd'hui, mais aussi en intervenant dans les établissements scolaires ou dans les entreprises. Et on a un atelier de recyclage plastique local en circuit court à Métré, où on va valoriser des plastiques usagés du territoire pour fabriquer des objets durables, design et désirables. Donc on va fabriquer du mobilier, des objets de décoration d'intérieur, du mobilier d'extérieur. En tout cas, essayer de valoriser le plastique et de le capturer pour faire des objets qui vont durer dans le temps et non pas des plastiques jetables à nouveau.
Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi là ce que vous êtes en train de faire sur le stand ?
Oui. Sur notre stand, là, en fait, on recrée un petit peu une chaîne du recyclage. On a ramené des petites machines. On a ramené une scanette à plastique qui vient nous aider à identifier les différents plastiques pour faire comprendre aux participants qu'en fait il existe des milliers de plastiques différents avec des propriétés différentes. Ensuite, on montre comment, pour les plastiques qui peuvent être recyclés, il va falloir les broyer pour les réduire en paillettes et enfin pouvoir les faire fondre pour les remouler et leur donner une nouvelle forme. Donc là, on est venu avec une petite injecteuse dans laquelle on fait rentrer des paillettes ou des bouchons de plastique qu'on va fondre et qu'on va injecter dans un moule pour fabriquer des toupies avec lesquelles les participants peuvent repartir.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, bonne journée.
Bonjour, nous sommes devant le stand de Coop avec
Sandra.
Sandra qui va nous présenter son association, ce qu'elle fait.
Alors nous sommes une association à but d'emploi, c'est-à-dire qu'on se trouve sur le territoire zéro chômeur longue durée qui est sur les Sanitas et Velpo. Notre structure fonctionne un peu comme une boîte d'insertion, sauf qu'au lieu d'être sur des emplois courts de 2 ans maximum, on est sur des CDI. C'est une expérimentation et nous recyclons voilà, principalement. On présente l'atelier couture avec les productions, avec des tissus recyclés, récupérés, etc. Mais on a aussi du recyclage d'articles de sport, de jeux et jouets, voilà, et de toutes sortes de choses. On va travailler sur les tanneurs avec Habiter sur Cyclé pour la rénovation de la bibliothèque. Voilà, donc on fait aussi de la rénovation d'objets en bois, etc. Donc voilà.
Très bien. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part à Tours ?
Alors, on a nos bureaux qui sont vers Champs-Giraud. Nous avons la recyclerie qui se trouve 12 rue Louis Miro dans les Sanitas. Et l'atelier couture qui est au 5 bis rue des Noyelles. Voilà, vers Champs-Giraud, derrière les bureaux. Voilà.
Très bien, on vous remercie.
Alors, sur notre plateau, il y a également Camille Ponchamp. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors, Camille Ponchamp, chargée biodiversité auprès de l'association étudiante Apnée, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, avant que Lola puisse te poser plein de questions sur cette association, peut-être, quelle réaction face à tout ce que vient de dire Pascal Vaudin ?
Ça fait réfléchir. On pense à notre mode de vie, on se dit que ça peut être super simple, en fait, d'éviter tous ces polluants. Comme il disait, en utilisant du verre, ou en ne faisant pas réchauffer nos plats dans du plastique. C'est assez simple de changer son mode de vie, ses habitudes. Et en plus, ça ne va pas nous nuire de changer nos habitudes. C'est pas quelque chose de. Au contraire, ça nous fera encore plus de bien. Et on sera aussi heureux de le faire, de changer. Et de savoir que ce qu'on fait, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Qu'on évite tous ces polluants dans notre corps et partout. Et ça fait du bien de se dire qu'on peut agir sur notre santé par des petits gestes qui sont quand même très simples.
Camille Ponchamp, donc, pouvez-vous nous présenter votre parcours et présenter votre association ?
Donc, je m'appelle Camille, je suis étudiante cette année en Master 1 Insectes Environnement Durable à Tours, donc mention Biodiversité, Écologie, Évolution. Et avant, j'ai fait une licence transition écologique et sociétale aussi à Tours, donc à la fac de Grandmont et au lycée Descartes. Je suis depuis toujours sensibilisée à l'environnement, à la nature. Je fais de la photographie animalière, je suis passionnée par les oiseaux. Et j'ai toujours eu ce regard un peu, pas différent, mais je prenais en compte la biodiversité qui m'entourait. Et voilà, j'étais un petit peu attiré par ce petit côté végétal ou animal ou voilà, c'était quelque chose qui me une fleur sur un trottoir, c'est quelque chose qui me faisait souvenir et sourire et j'y prêtais attention. Donc je suis un petit peu comme ça. Et je fais partie de l'Apnée, donc association pour la protection de la nature et de l'environnement à Tours, donc une association étudiante. Donc ça a pour but de favoriser des actions donc en faveur de l'environnement. Il y a plusieurs pôles. On a un pôle pour la bouturothèque, un pôle pour la biodiversité. Donc, je suis chargée de mission de biodiversité à l'Apnée avec deux autres personnes. On a aussi un pôle pour la distribution des paniers repas qui se faisait en relation aussi avec une association sur la fac de pharmacie, donc les paniers de contrat. On a organisé plusieurs actions aussi à chaque fois, l'apnée, donc on essaye d'être assez actif et réactif, et souvent, généralement, les actions se font en plus sur le campus de Grandmont, donc qui est situé au cœur du bois de Grandmont, donc une zone assez riche écologiquement.
Très bien. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous ayez rencontrées en tant qu'association ? Par exemple, le manque d'engagement.
Il y a eu c'est vrai qu'il y a eu un certain manque d'engagement. On a des années où beaucoup de personnes se sont engagées et en fait quand elles ont quitté l'université, il a fallu remobiliser des personnes derrière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué de réussir à faire tenir une association sur la durée et chaque année de passer le lien de nouveau à d'autres personnes. Ça peut être assez compliqué, mais cette année on s'en est plutôt bien sorti et on continue. Et avec notamment le fait de cette nouvelle formation des CPES, donc cette licence transition écologique et sociétale, ça fait 4 ans que ça existe et pour l'instant, dans les 4 ans, au moins 2-3 étudiants de chaque promotion se sont engagés au sein de l'Apnée en tant que bénévole ou chargé de mission.
Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans vos engagements ?
Je pense que c'est de faire découvrir des choses à des gens qui n'en avaient pas conscience et qu'ils aient un regard différent et qu'en fait ils changent leur regard, leur position sur des choses qui les entourent. Je pense que moi c'est ça qui me rend le plus fier, c'est de leur dire mais attendez, regardez. Et leur expliquer comment ça marche, leur expliquer une petite anecdote qui fait qu'ils vont retenir ce que c'est. Ou voilà, je pense que c'est ce qui me rend le plus fier, c'est de partager ce que je sais aux gens et aussi d'en apprendre beaucoup, parce qu'on en apprend tous les jours.
Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué au sein de l'association?
J'ai fait une visite du bois de Grandmont, on a organisé ça. C'était censé durer une demi-heure avec un parcours défini. Ça a duré 2 heures, avec un parcours qui n'était plus défini du tout. Mais on a trouvé tellement de choses et on était tout le temps attiré par quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas forcément vu sur le premier repérage ou qu'une autre personne plus apte à nous expliquer, nous amener vers cette chose-là. Enfin, voilà, c'était un bon moment de partage et c'était un beau moment.
Comment voyez-vous l'avenir, l'engagement à Tours? Est-ce que vous pensez que ça va vers la bonne voie?
C'est difficile comme question, ça. Oui et non. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui doit se faire. Ça peut être un mouvement porté par quelques personnes, mais si tout le monde ne suit pas... Hier, ils ont fait une collecte de déchets dans la ville de Tours. Ils étaient très contents parce qu'ils avaient récolté moins de déchets que l'année dernière. Après, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils sont passés, sur les mêmes passages, etc. Mais est-ce que est-ce que le truc, ce serait pas de passer par encore plus de sensibilisation, encore plus de... En fait, il faudrait faire en sorte que ce soit plus la norme de jeter un déchet par terre ou même un mégot. Ça fait des années qu'on sait que jeter un mégot par terre, c'est pas bon. Et il y a encore plein de gens qui le font. Et je pense que c'est par là aussi que ça passe. C'est sympa de faire des bicyclettes, des trucs comme ça, mais peut-être plus de sensibilisation à l'école. La ville de Tours le fait pas mal aussi dans les écoles avec les classes vertes, mais au sein de la ville de Tours, où les cours de récréation qui sont végétalisés, les cours dans les potagers, etc. Enfin, il y a dès l'enfance avoir une prise de conscience et une sensibilisation qui soit plus forte. Et je pense que ça fera en sorte que les gens qui jettent leur mégot ou qui font n'importe quoi vis-à-vis de l'environnement, ça devienne plus la norme et qu'en fait ce soit eux qui soient discrédités et que voilà.
Très bien. Je vais vous poser la même question qu'à Monsieur Vaudin. Si vous pouviez transmettre un seul message, lequel serait-il ?
Mon message, ce serait ouvrez les yeux. Soyez curieux. Regardez ce qui vous entoure. Quand vous descendez la rue nationale, regardez pas les vitrines des magasins. Levez la tête. Regardez les pigeons, les goélands qui passent au-dessus de vous et cherchez le petit pissenlit qui sera caché entre deux plaques de au sol et voilà, qui sera cherché la végétation, la vie. Observez votre environnement et toutes les formes de vie qu'il peut y avoir autour.
Je vous remercie. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Syndicat Touraine Propre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but de votre association ?
Alors nous, on est un syndicat, donc on est une collectivité qui s'occupe de sensibiliser comme aujourd'hui les personnes sur notamment la réduction des déchets et aussi le tri aujourd'hui. Donc c'est des étudiants qui ont plus accès à des solutions de tri que de réduction des déchets. On est un syndicat aussi qui produit des études pour les collectivités qui adhèrent à notre syndicat, comme Tours Métropole. On a la charge de mettre en place un plan de réduction des déchets dans le département. D'ici à 2030 pour passer de un peu plus de 500 kg par habitant par an à 446 kg par habitant par an en 2030. Donc nous on met en œuvre un programme de réduction des déchets sur tout le département quasiment.
Très bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites sur votre stand ?
Alors là les étudiants viennent, ils ont plusieurs petites poubelles en face d'eux, donc on a des déchets. Donc ils doivent trier les déchets convenablement entre la poubelle noire et la poubelle jaune. Il y a aussi des pièges, donc des déchets qu'ils doivent mettre ni dans l'une ni dans l'autre. Par exemple, ils doivent trouver la filière appropriée, comme la déchetterie, par exemple, pour les déchets électroniques. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le tri des déchets, on regarde les erreurs ou pas. Et le but, c'est en seconde étape, c'est qu'ils réduisent les déchets. Parce que nous, c'est vraiment notre objet. Donc là, je prends des déchets et ils doivent me donner une alternative qui permet d'éviter ce déchet. Par exemple, une bouteille d'eau en plastique à usage unique. Et ben, ils me disent, ils me donnent l'exemple de la gourde ou de la bouteille consignée réutilisable pour réduire les déchets jetables comme la bouteille en plastique.
Très bien, on vous remercie.
Je voyais Pascal Vaudin qui réagissait pendant que Camille Ponchamp expliquait qu'il faudrait changer le regard des personnes, les impliquer dès le plus jeune âge. Et alors, Pascal Vaudin, puisque vous êtes enseignant-chercheur, vous avez quand même plusieurs années à votre actif auprès des étudiants. Est-ce que vous avez des secrets, des astuces pour investir les gens pour faire que, voilà, au-delà de, par exemple, avoir une note, des étudiants se sentent investis dans un projet et ça sur le long terme?
Alors, ma réponse, ça serait pas forcément la réponse d'un enseignant, quoique. Je pense que pour intéresser et que les étudiants puissent s'investir, il faut, et je pense que l'université est bien placée pour ça, il ne faut pas proposer que des cours. Il faut proposer des projets. Des projets que les étudiants puissent investir dedans, puissent prendre en charge ces projets du début jusqu'à la fin. Et ça leur permet d'acquérir des compétences que l'on ne leur apprend pas dans un amphi ou dans une salle de TD. Comment écrire un mail à une institution, à une mairie, comment on fait des demandes de financement, comment on s'adresse à ses futurs financiers peut-être, hein, comment on fait un rapport d'activité. Voilà, ça c'est... Je pense qu'il faut susciter un intérêt, pas par les cours, parce que les cours c'est purement descendant, encore une fois, hein, je suis enseignant, je ne devrais peut-être pas dire ce genre de choses. Et puis on devient obsolète, hein, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les informations qu'il y a à disposition. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'en tant qu'enseignant, je suis de plus en plus obsolète. C'est-à-dire, effectivement, je donne des informations, mais est-ce qu'on fait réfléchir les étudiants qui sont des citoyens? Est-ce qu'on peut les amener à réfléchir pour qu'ils deviennent un meilleur citoyen? Ça, c'est au moins citoyen tout court. Et je pense qu'à la fac, on a toute l'attitude pour faire ça. Mais je ne suis pas sûr que dans l'ensemble de mes collègues puissent partager. Il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut aussi que les enseignants s'investissent dans ces projets. C'est beaucoup d'investissement. Mais pour moi, ça passe par là. Il faut arrêter de faire des cours purement descendants, mais des cours voire même pas une co-construction de cours, mais que les étudiants, par ces projets, ils font de l'auto-formation, ils se forment eux-mêmes. Et quand ils n'ont pas l'information, ils vont la chercher. Et pour moi, il n'y a pas mieux comme formation.
Je suis tout à fait d'accord. J'ai pu avoir M. Vaudin en tant qu'enseignant, professeur. Et on a fait un super projet, en fait. Et on était investis, on s'en souvient tous, et je pense qu'on s'en souviendra tous parce qu'on a été sur le terrain, on a envoyé nos données à des laboratoires d'analyse, on a reçu des analyses, on a refait des expériences en labo avec ce qu'on avait reçu. Enfin, ça a été un projet mené de A à Z et qui nous a fait prendre conscience de plein de choses. Et c'est vrai que moi j'ai toujours préféré les cours actifs que plutôt passifs où on écoute le prof déblatérer son sujet avec un diaporama. J'apprends mieux sur le terrain qu'en salle.
Est-ce qu'il y a quelque chose à voir aussi avec le sentiment de légitimité? De se dire, dans cette façon de faire, en fait, de transmettre, d'impliquer les gens, c'est une façon de leur dire aussi, vous êtes légitime pour prendre la parole, pour démarcher les gens, pour être acteur, en fait, et attendre que les choses arrivent sur vous.
Oui, complètement. Ils se sentent impliqués, ils ont envie de faire quelque chose et on leur montre que c'est possible de faire des choses aussi à leur échelle.
Oui, puis ça les responsabilise aussi. Ça les responsabilise, ça leur fait prendre aussi une grande confiance en eux. Voilà, hein, comme Camille disait, c'est eux qui ont développé le projet. Bon, effectivement, quand à la fin le projet est terminé, on se dit on a réussi à faire tout ça du début jusqu'à la fin. Plutôt que de suivre un protocole, petit 1, faites ça, petit 2, faites ça. Bon, bah, ce qu'on en retire n'est pas du tout la même chose. Quand on est actif, on retient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus formateur que lorsqu'on est purement passif.
Une dernière question peut-être. Là, vous évoquiez aussi le... vous disiez que vous êtes peut-être obsolète. Et donc sur l'idée, je pense à l'obsolescence des connaissances. Et du coup, là, comment... qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au niveau de l'Université de Tours pour anticiper cette obsolescence des connaissances? Comment on peut mettre à jour les filières, les programmes? Comment on pourrait injecter peut-être plus d'environnement et de nature dans toutes les filières et pas seulement celles qui sont spécifiques et directement concernées? Je vous pose la question.
Alors ça, c'est une question qui est très, très, très compliquée. Hein. Et puis... l'université, on est chargé d'enseigner, de transmettre des connaissances à énormément d'étudiants. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est un peu, entre guillemets, cet aspect enseignant de masse qui n'est pas facile non plus, il faut qu'on s'y aille avec tout ça. Il faut qu'on puisse s'adapter aussi aux futurs besoins de la société. Ça, c'est assez compliqué. Voilà, il y a beaucoup de formations qui tourne autour de l'environnement. La question, c'est est-ce que le bassin de l'emploi est assez vaste pour absorber les étudiants que l'on forme. Ça, c'est peut-être qu'à l'université, on est dans cet aspect prospection, de projection, on a peut-être des efforts à faire, c'est-à-dire la société dans 10, 20, 30 ans, de quoi elle aura besoin en termes de professionnels, de compétences. C'est extrêmement compliqué de se projeter, hein, mais l'université, tous les 5 ans, on doit renouveler nos maquettes, hein, nos cours. Et quand on fait des renouvellements de maquettes, je ne vois pas trop cette réflexion. Quand on fait, lorsqu'on renouvelle ces formations, on a tendance à systématiquement renouveler les formations avec quelques modifications à la marge. Mais c'est pas évident, c'est pas un exercice facile. Pas un exercice facile. Et puis aussi, il faut écouter les étudiants, ce qu'ils veulent faire, leur faire confiance, voilà, en leur donnant des projets, en leur donnant aussi quelques moyens pour mettre en œuvre ces projets. C'est vrai qu'il y a différents appels à projets, appels d'offres, appels à financement de l'université. Il y a la CEVEC, il y a FSDIE, on peut faire des demandes de financement pour mettre à bien ces projets. Et puis il y a des services aussi à l'université, hein, qui sont très très à l'écoute des étudiants. Le service de l'environnement, le service de SPOT, hein, de l'environnement de transition écologique, mais pas que, hein, le bureau de la vie étudiante sont très 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 réceptifs aux initiatives étudiantes.
Et si vous souhaitez, vous pouvez adhérer aussi à l'Association de protection de la nature et de l'environnement. Donc on est principalement basé à Grandmont, mais on accueille tous les étudiants et aussi les personnels de l'université qui veulent se joindre à nous. Donc on propose aussi des ateliers de jardinage au moins une fois par mois, des visites du bois de Grandmont, des friperies, aussi un concept de bouturothèque. Et l'année dernière, il y a une cleat walk, donc une marche de déchets qui avait été réalisée sur les bords de Loire avec en prime une petite sensibilisation pour les gens qu'on croise.
Alors là, je pose vite une question à Camille Ponchamp. Une étudiante me disait, ce que je lui demandais, est-ce que son association est militante? Il me disait non, mais parce que en fait, pour lui, il dit exister déjà, c'est militer. Est-ce que c'est une idée qui pourrait faire écho de votre côté? Il disait déjà, le fait qu'on existe, c'est déjà militer.
Oui, je pense. On existe, on est reconnu, on a la possibilité de faire nos projets. L'année dernière, on a aussi eu l'occasion d'aller faire de la sensibilisation et de discuter avec des lycéens au lycée Descartes de Tours. Donc oui, on est reconnu et c'est déjà, oui, une preuve de militantisme. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de faire des projets, etc. Je pense que c'est effectivement une preuve de militantisme que d'exister en tant qu'association nature.
Et puis en tant que citoyen, tout simplement.
Aussi, tout simplement.
On peut être militant, mais aussi et surtout citoyen. Et un citoyen doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir être libre et assumer ses idées.
Alors peut-être, Pascal Vaudin, un mot sur une association qui est partenaire, je crois, du projet SCAPE, c'est La Solidaire.
Alors la Solidaire, oui, c'est dommage, elle n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une association d'étudiants de la faculté de médecine. Ils ont un compte à Instagram, vous pouvez aller voir leur compte. Et qui nous aide dans le projet SCAPE et surtout qui nous aide à communiquer auprès des étudiants et faire connaître ce projet auprès des étudiants pour que les étudiants puissent candidater et fassent partie de cette cohorte de ces 600 étudiants. Après voilà, c'est pas facile de recruter ces étudiants. On doit en recruter dans le plan 600 étudiants. Pour l'instant on n'y est pas. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'associations étudiantes pour faire connaître cette opération. On a un compte Instagram, mais bon, c'est pas évident. Donc pour moi, je suis pas. J'ai pas grandi avec Instagram, donc j'ai plus de difficultés à communiquer par ce canal que des étudiants qui connaissent parfaitement. Donc moi j'aurais bien. Voilà. Toute aide est bienvenue pour aider à communiquer et à faire connaître ce projet.
Je ne trahis pas un secret d'État en disant que le projet SCAPE devrait aussi être suivi quelque peu par Radio Campus. Voilà.
Oui, tout à fait. Mais on est très heureux d'avoir Radio Campus Tours et Orléans aussi parmi nos partenaires pour faire vivre le projet, pour le faire connaître. Et voilà, on est très, très contents.
Voilà, donc je remercie d'avance nos deux volontaires qui sont ici présents, animateurs de sortie. Voilà, je pense que voilà, il y a des chances que vous fassiez à l'avenir des émissions en lien avec ce projet SCAPE. Merci à vous deux, je te laisse le mot de la fin.
Merci à vous deux également et à très vite pour une nouvelle interview.
Merci beaucoup.
Merci.
Et du côté des Beaumont.
Bonjour, alors moi c'est Hiro Dessin Graphisme. En gros je customise tout et n'importe quoi, peinture à la main uniquement. Et au pinceau du coup. Et là ce soir avec le Crous, du coup je suis là pour customiser sur place, faire en mode comme des flashs de tatouage, donc 10 minutes sur chaque dessin, sur chaussures, casquettes, textiles, un petit peu tout ce qu'on veut. Et donc ça jusqu'à 23h30. Et sinon en dehors, bah du coup je peux customiser à peu près n'importe quoi, ça va de la portière de 4L au vinyle, au skateboard, enfin voilà, tout et n'importe quoi à la main et le tout dans le 37 du coup. Du coup c'est de me voir peindre sur place déjà et de faire un truc vraiment personnalisé à fond. En fait c'est vraiment mon truc, c'est de vous faire quelque chose que vous trouverez nulle part ailleurs parce que déjà peinture à la main c'est pas ce qu'on trouve en magasin. Donc voilà, le truc c'est de vraiment faire un truc, si j'ai une connerie, mais un manga que vous aimez mais que vous trouvez, il n'y a pas de merchandising derrière, moi je peux vous le faire, le personnage, vraiment le custom que vous trouverez nulle part ailleurs du coup. J'espère en tout cas, parce que moi j'allais dire je peins, je me vois pas peindre, hein, donc j'espère que je suis assez agréable à voir. Mais je pense que oui, il y a moyen, et surtout la plus grande satisfaction, je pense que ça va être de repartir avec quelque chose qui était sobre avant et qui a vraiment votre marque en partant. Quoi. Là c'est gratuit, c'est Crous qui fait cadeau de tout ça. Et oui, j'ai oublié de préciser que là sur le stand, c'est un truc que moi je fais pas en temps normal. Mais là sur le stand pour ce soir, le Crous offre aussi des lacets. Il y a une cinquantaine de paires de lacets différents, complètement flashy, un peu de tous les styles. Et des bijoux de chaussures pour les lacets justement. Et le but c'est vraiment que vous partiez avec un truc customisé. C'est vraiment un bar custom en fait. Alors je peux en parler, pour la partie dessin, c'est un peu dur d'en parler comme ça en soirée. Par contre, je peux renseigner sur les peintures, sur les façons pour préparer les supports et compagnie, sans aucun problème. Et surtout, je peux aussi prendre des commandes pour plus tard, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, pour faire connaître.
Merci.
Merci, bon courage.
Merci. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes déjà, ce que vous faites ici, votre stand et la structure aussi dont vous appartenez?
Bonjour, donc nous on fait partie du lycée agricole de Fondette, Agrocampus Tour Fondette. On est toutes dans la formation métier du végétal, c'est du coup un BTS en 2 ans. Et voilà. voilà. Il y a plein d'autres formations aussi autour de l'agriculture disponibles au lycée et au CFA, parce qu'on est un groupe où il y a des formations pour adultes, un CFA et un lycée aussi. Voilà.
Ok, ok. Et là sur le stand, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites avec les plantes
Là du coup on présente l'ensemble des formations qui sont disponibles sur le campus, et ensuite on propose une petite énigme aux étudiants qui viennent et on offre une plante pour ceux qui ont la bonne réponse.
Ok, trop bien. Est-ce que vous avez un mot en plus à dire pour la fin peut-être, hein, pour attirer des gens, pour...
Si vous aimez, nous on fait partie de la formation horticole, donc si vous aimez les plantes et si vous avez un attrait pour les végétaux, le lycée cherche des étudiants et la formation, voilà.
Ok, trop cool, merci beaucoup.
Fin de cet épisode. Retrouvez toute la série de podcasts consacrés à la rentrée universitaire sur notre site radiocampustour.com. Cette série vous est proposée par Radio Campus Tour. Un grand merci à Camille, Elio, Guillaume, Louise, Lola, Marie, Mélissa, Napoléon et Sébastien.